Radio01.net vous présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission portera sur les jeux Diablo, Diablo 2, Diablo 3 et leurs extensions respectives sorties sur PC et console. Cette réflexion a déjà été menée à un moindre niveau et publiée sur le site communautaire Judge Hype.
Première partie, présentation et problématique.
La série des Diablo, éditée par Blizzard Entertainment et créée en 1996, fait partie des plus connus de l'éditeur. Ces jeux appartenant à la famille dite des hack and slash, à laquelle on a saupoudré un semblant de caractéristiques issues du jeu de rôle à l'occidental, ont depuis lors fait la renommée du développeur et ce, bien que de nombreuses polémiques, liées notamment au dernier épisode en date, aient émaillé leur existence. Ces jeux nous placent dans un univers fantastique et médiéval où le joueur humain, appartenant à une classe de guerriers choisis en début de partie, paladins, barbares, amazones, sorciers, etc., doit se lancer dans une vaste quête le conduisant sempiternellement à affronter Diablo, un démon venu des enfers, qui cherche avec ses légions et ses frères à asservir la terre. Les intrigues des épisodes successifs, se déroulant dans un seul et même monde, se suivent avec plus ou moins de régularité. Diablo 2 débute là où le premier épisode s'était achevé, mais quelques années séparent Diablo 2, et même plus précisément Diablo 2 Lord of Destruction, et Diablo 3. On n'aura cependant aucun mal à retrouver le fil narratif construit par les développeurs, de nombreuses références, noms de personnages ou de lieux, se retrouvant de titre en titre. Le système de jeu, s'il a subi au fur et à mesure du temps de nombreuses accommodations et changements, reste globalement le même. Le joueur personnage se doit d'explorer son univers et ses donjons, tuer des monstres pour engranger de l'expérience et ainsi augmenter ses compétences, trouver des objets d'équipement et des armes que laissent tomber les belligérants, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Si chaque épisode possède ses propres spécificités, les grandes lignes se trouvent là cependant. C'est qu'en réalité, ce qui a fait l'objet, au fur et à mesure du temps, du plus grand remaniement, et ce qui composera notre problématique du jour, c'est la façon dont le signe « espace » du jeu a été modifié au fur et à mesure du temps, la chose se révélant toute particulièrement une fois traversé le dernier épisode en date. L'une des premières choses qui peut frapper en effet en jouant à Diablo 3, c'est la façon dont l'espace et les environnements traversés sont construits, et ce bien différemment de ses prédécesseurs. Notamment, la comparaison avec Diablo 2, dont il s'approche le plus en esprit, fait ressortir toute la particularité de la construction spatiale de ces jeux. Faisons alors un rapide panorama de la façon dont l'espace de jeu est construit au sein de ces trois épisodes. Dans le tout premier, Diablo le bien nommé, l'espace ne se compose que de la ville de départ, Tristram, et de la cathédrale, le joueur descendant de plus en plus en son sein jusqu'à atteindre la porte des enfers et Diablo lui-même. Dans le deuxième épisode, bien plus ambitieux, l'espace est construit en actes, 5 avec l'extension, chacun tournant autour d'un environnement spécifique, la plaine, le désert, la jungle, les enfers, la haute montagne. Et l'objectif, globalement, est d'atteindre un point B à partir d'un point A qui est la ville initiale. Enfin, dans Diablo 3, s'il s'agit toujours pour le joueur d'atteindre un point B à partir d'un point A, la différence est celle-ci, c'est qu'autant dans Diablo 2 le joueur pouvait s'affranchir, à une exception notable sur laquelle nous reviendrons, de revenir dans la ville initiale, dans Diablo 3, la chose est impossible. À nouveau, nonobstant une seule exception, puisqu'il lui faudra revenir à son point de départ, qui agit à la façon d'un hub, distribuant plusieurs environnements qu'il devra explorer de façon successive afin de terminer l'acte en cours. Or, ce retour en arrière est pour moi infiniment signifiant, comme je le montrerai ci-après. Aussi, je poserai la problématique de cette émission comme suit. Quelles interprétations narratives peut-on donner à la construction du signe espace dans les jeux Diablo, Diablo 2 et Diablo 3 ?
Deuxième partie, une rapide sémiotique de l'espace vidéoludique.
Depuis le deuxième âge du jeu vidéo, ce que j'appelle la transition des premières expérimentations où il ne fallait pour le joueur qu'engranger le plus grand nombre de points dans un écran qui ne changeait nullement, comme dans Pong ou Asteroids, aux jeux vidéo modernes que nous connaissons aujourd'hui, avec une évolution des niveaux, des pouvoirs du héros, des objectifs, des décors, etc., j'ai tendance à considérer que les trois pôles de sa définition, règles, objectifs et espace, sont immensément narratifs, quand bien même la chose n'est pas ouvertement voulue par les développeurs. Par ce terme de narration, j'entends qu'il est possible pour un joueur de reconstituer mentalement un parcours historique, fait d'avant et d'après, autrement dit, une temporalité, ce qui lui permet de rendre son expérience ludique signifiante. Si l'on prend ainsi un jeu comme Donkey Kong en arcade, nous pouvons remarquer que les règles et les objectifs ne diffèrent pas ou presque pas. Mario restera toujours le même. Il ne pourra jamais évoluer que sur les plateformes et les échelles, peut sauter et prendre un marteau, et doit atteindre Donkey Kong au sommet de l'écran. L'espace, en revanche, évolue d'écran en écran. Singe, c'est le cas de le dire, la montée d'un gigantesque échafaudage et, de là, mime l'intrigue du jeu. La même analyse peut se faire concernant les jeux de plateforme. Si la plupart débutent dans des environnements bucoliques, des plaines, des forêts, les derniers niveaux sont généralement dévolus à des endroits plus menaçants, garnis de têtes de mort, de squelettes ou de gouffres remplis de lave, imitant là encore la trajectoire traditionnelle du héros qui part de son domicile pour rejoindre l'antre du malin. Que l'on songe, un instant et dans le domaine littéraire ou cinématographique, au Seigneur des Anneaux. Autrement dit, il est possible de considérer que dans un jeu vidéo, l'espace est narratif. Le signe raconte une histoire en complément, le plus souvent, d'autres indices mieux dévolus ou, du moins, plus attendus, tels que l'évolution des objectifs, les cinématiques ou les dialogues. Il n'en reste pas moins qu'il nous suffit, le plus souvent, de traverser un niveau en particulier, même sans prêter attention à l'histoire, pour savoir intuitivement que nous nous trouvons au début, au milieu ou à la fin d'un jeu en particulier. Cela passe, comme je viens de le signaler, par une série d'indices, dont en premier lieu l'iconographie particulière utilisée par les développeurs et qui exploite globalement l'environnement symbolique que nous associons inconsciemment et culturellement au bien et au mal. Cette analyse, cependant, ne saurait se faire pour tous les jeux, et notamment pour les jeux qui prennent place dans des environnements ouvertement délétères et qui demandent d'explorer de sombres lieux, tels les Diablo, bien évidemment, mais également et par exemple les jeux de la série des Ghosts and Goblins ou des Castlevania, où nous n'avons pas, évidemment, le contrepoint joyeux de l'aventure puisque tout n'est que mort et désolation. Le côté narratif de l'espace va donc s'exprimer ici autrement et notamment dans la construction de celui-ci et va en appeler, y compris pour les jeux en trois dimensions, à l'opposition entre dimension horizontale et dimension verticale. S'il ne s'agit pas nécessairement d'attribuer à ces axes des caractéristiques spécifiques et morales, il est en revanche possible de les mettre en relation avec la notion de voyage qui reste, jusqu'à aujourd'hui, le principe fondateur des jeux narratifs. Je pense que nous pouvons nous représenter le signe espace comme un repère orthonormé à deux dimensions. L'origine du repère est le début de l'aventure, là où commence toute partie. De là, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. L'axe horizontal est associé à cette notion de voyage initiatique dont je faisais état à l'instant. Le joueur-personnage qui évolue sur cet axe se rapproche incidemment de son objectif premier, quel qu'il soit. Mais cette quête peut soit être progressive, c'est-à-dire que l'on va se déplacer vers le bord droit de l'écran ou en profondeur dans le cas des jeux en trois dimensions. La chose est universellement répandue et n'a pas partie liée, pour moi, avec le sens de lecture, ce qui explique que même dans les jeux japonais, l'écran défile de la gauche vers la droite, ou régressive, en se déplaçant vers le bord gauche. Mais pour ce faire, le héros ne va pas, en règle générale, avoir pour point de départ l'origine du repère, mais un point situé dans la partie positive des abscisses, si bien qu'il repassera par l'origine avec l'expérience acquise, peut-on dire, du chemin auparavant effectué. L'axe vertical est davantage associé à l'intériorité de la quête, à son caractère intimiste, peut-on même dire. C'est l'instant où le personnage va, en quelque sorte, être confronté moins à l'environnement, mais bien à sa réalité individuelle. Que cela soit en montant ou en descendant, le message reste sensiblement le même, et l'on ne peut manquer de remarquer que nombre de jeux réservent leurs derniers instants à une grimpée ou à une descente dans le dernier donjon, le signe étant, sémiologiquement, et encore une fois, relativement répandu. Super Mario 64, A Link to the Past, Ghosts and Goblins, Mega Man X, Castlevania, la liste est pour ainsi dire infinie. Présenter des espaces ainsi construits, c'est orienter la narration du jeu traversé. L'alternance entre verticalité et horizontalité permet d'élaborer une narration particulière, concentrée, comme on peut s'y attendre, sur le joueur-personnage. Ceci étant posé, tentons d'appliquer cette terminologie à la série des jeux Diablo.
Troisième partie, les espaces narratifs.
Comme nous avons dit, les trois Diablo ont chacun une structure spatiale toute particulière que je vous propose de mettre alors ici en lumière et d'associer aussi précisément que possible avec leurs intrigues respectives. Diablo, ainsi, a une progression globalement verticale, puisque l'on demande aux joueurs de s'enfoncer encore et encore plus dans les profondeurs de la cathédrale de Tristram. À la façon de l'enfer de Dante, où chaque cercle s'enfonce de plus en plus vers le centre de la terre, le héros du premier Diablo creuse véritablement sa tombe et se rapproche toujours plus de la bouche des enfers. Sa quête, de là, et selon la théorie que nous avons mise en place, est donc à considérer uniquement sous l'angle de l'introspection et de l'intime. Nous avons bien là le duel, à proprement parler, de l'homme face au démon, et, ainsi, la fin de l'histoire n'étant rien surprenant pour qui aurait su interpréter sa construction spatiale. Nous voyons effectivement le héros enfoncer la pierre d'âme de Diablo dans son front pour le contenir et, de là, ne faire plus qu'un avec le démon. Pour un peu, et si jamais les développeurs ont lu Nietzsche, je me piquerais bien de les croire fervents lecteurs d'au-delà bien et mal, et d'avoir illustré cette maxime à présent célèbre, que celui qui combat les monstres prenne garde à ne pas devenir monstre lui-même. Diablo 2 s'apparenterait quant à lui à une course en avant, et les niveaux, avec l'exception notable de l'acte 2 dont je parlerai ci-après, sont construits de façon linéaire. À partir d'un point de départ, la ville, le camp des rogues, Ludgolheim, les quais de Curast, etc., le joueur va progresser de façon horizontale cette fois-ci dans l'overworld et de façon verticale dans les donjons. Conformément cependant aux canons qui ont été mis en place auparavant, c'est cette verticalité qui dominera lourdement les actes 4 et 5 du jeu en proposant respectivement de descendre au plus profond des enfers et en escaladant la plus haute des montagnes. Nous pouvons alors remarquer ici également que ce qui a été dit sur l'exploration en repassant par le point d'origine a un écho tout particulier ici, puisque pour remonter et donc gravir la montagne, le héros a dû descendre au plus profond de son monde et, de là, repasser par l'origine du repère orthonormé avec l'expérience chèrement acquise. La construction horizontale de Diablo 2, à présent, est on ne peut plus cohérente avec la course-poursuite qui charpente l'histoire du jeu. Comme vous le savez, le héros ici est perpétuellement à la recherche du rôdeur, le héros du premier épisode, mais celui-ci a toujours une longueur d'avance sur vous. Il parvient à libérer Baal dans le tombeau de Talrasha, lorsque vous affrontez Mephisto, Diablo est déjà revenu aux enfers, et Baal, dans l'extension, corrompt la pierre monde avant votre arrivée et votre grandiose victoire. Toujours en retard sur les événements, vous cherchez à rattraper l'histoire qui à toute reprise vous échappe. La logique du flashback, qui sous-tend la narration du jeu, est du même ressort. Le récit rétrospectif de Marcus, sur lequel s'ouvre la partie, n'a pour seule utilité que de le ramener au point de départ de son récit, sa rencontre, dans la prison, avec Tyrael et ce qui s'ensuit. Les actes de Diablo 2 commencent chacun par une ville ou un campement dans lequel le joueur sera constamment en sécurité, où il pourra acheter divers objets et faire réparer ses armes. À partir de là, le joueur va évoluer dans un certain nombre d'environnements linéairement disposés. Dans l'acte 1 par exemple, le joueur traversera la lande sanglante, les plaines gelées, le champ de pierre, le bois obscur, le marais sombre, les hautes terres, etc. avant de parvenir à la fin du chemin, les catacombes, où l'attend Andariel, et où l'on observe cette verticalité dont nous venons de parler. Il est de là possible, et c'est d'ailleurs ce que font les speedrunners quand ils s'essaient à ce jeu, de partir du camp des rogues et d'aller jusqu'au boss de fin d'acte sans jamais se retourner ou revenir en ville, et toujours aller de l'avant. La thématique du voyage est parfaitement respectée, et malgré l'appartenance du jeu au genre dit des role-playing games, s'approcherait, en esprit, des jeux de plateforme ou d'action-aventure que nous connaissons par ailleurs. Nul n'est ainsi besoin de libérer Deckard Cain dans le premier acte. Il sera à nos côtés à Ludgolheim lors du deuxième, magiquement échappé de sa prison sordide. L'analyse peut être reconduite pour les actes 3, 4 et 5, mais non pour l'acte 2, où le joueur se doit de revenir, au moins une fois, à Ludgolheim pour atteindre le tombeau de Talrasha en passant par le palais du sultan. Aussi, si le joueur explore tout d'abord le champ est du désert, il arrivera à un cul-de-sac après avoir trouvé le cube Oradrim et les morceaux du sceptre sacré. Il doit ensuite revenir à Ludgolheim et explorer les caves du palais, traverser le sanctuaire des arcanes et, enfin, atteindre le tombeau de Talrasha. Il faut remarquer cependant que ce retour en arrière n'agit pas réellement selon une logique de hub, et dont nous parlerons ci après, puisque la progression demandée, ici, est verticale jusqu'à trouver le portail vers les arcanes, puis horizontale, le tombeau nous ramenant dans le décor du désert du début de l'acte 2. Autrement dit, la chose est une prise d'élan, permettant de propulser le joueur vers un canyon situé au-delà du cul-de-sac qu'il avait précédemment rencontré. En prenant ainsi de la hauteur, on peut s'apercevoir que la course-poursuite, qui épouse narrativement le concept entier du jeu, est respectée encore une fois. Évidemment, à côté de cela, cette progression horizontale linéaire connaît des débordements obliques, par l'intermédiaire de zones annexes, dont la complétion n'est pas nécessaire pour terminer le jeu, comme le cimetière de l'acte 1, et de donjons à la progression verticale encore une fois. Ce sont surtout des endroits recherchés par les joueurs pour engranger expériences et objets, tels le donjon de la comtesse, fort brisé des super players de tout poil, et permettre ainsi d'aborder plus sereinement la suite du jeu, la descente intimiste permettant toujours de compléter le voyage initiatique. Diablo 3 est construit quant à lui de façon très différente et introduit le principe de retour en adoptant une construction davantage inspirée par la logique du hub telle qu'on peut l'apercevoir dans les jeux de plateforme en 3 dimensions, construction que nous allons détailler à présent.
Quatrième partie, le paradigme de la marguerite.
Jusqu'à présent, nous n'avons considéré les choses que de façon un peu plus linéaire, que ce soit du point de vue vertical ou horizontal. Et quand bien même nous considérions certains retours par l'origine du repère, nous ne le prenions que comme une étape comme une autre, et non comme un endroit où le joueur est censé revenir encore encore et encore. Certains jeux, en revanche, en lieu et place de cette linéarité rassurante, par endroit, ont choisi de se construire par hub ou, pour reprendre une image plus parlante peut-être, selon le principe de la marguerite. Il faut se figurer qu'à partir du centre de cette fleur, le joueur va suivre le contour d'un pétale, avant de revenir, faire de même avec un deuxième pétale, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre une autre marguerite, ou jusqu'à ce que l'un de ces pétales mène à la fin du jeu. Cette structure a connu jadis son heure de gloire par l'intermédiaire des Megaman. En effet, chaque boss est un de ces pétales en question, et c'est une fois l'intégralité de la marguerite effeuillée que s'ouvre le dernier pétale, conduisant au Dr. Wily. Bien que minoritaire, cette construction de l'espace est revenue en force dans les jeux de plateforme action en 3 dimensions, notamment ceux apparus après Super Mario 64. Même Crash Bandicoot, dont le premier épisode conservait une structure linéaire, reprend, dans sa deuxième itération, sortie un an après l'aventure du plombier, cette marguerite de la façon la plus évidente qui puisse être. L'inconvénient majeur de ce type de structure qui permet cependant une grande clarté de construction, c'est qu'il tend à privilégier la dimension horizontale de l'espace au détriment de la dimension verticale où, plutôt, cette dernière est subordonnée et non successive à la première. Si la dimension verticale demeure généralement à l'approche du dernier boss, elle n'a généralement pas la portée symbolique qu'on peut lui prêter dans une structure globalement linéaire, à moins de construire une mise en scène particulière, tels les escaliers de Super Mario 64 ou de Ocarina of Time, où c'est ici la musique qui vient, en réalité, accomplir le travail sémiotique qu'aurait dû prendre en charge seule la verticalité de la scène. Cette structure, fort répandue au cours de la période des 32 et des 64 bits, a aujourd'hui quasiment disparu. Je ne crois pas que cela soit dû à une certaine lassitude de la part des joueurs ou des développeurs, mais bien de cet inconvénient de sens que le signe portait en lui-même. Comme je l'avais signalé dans un autre numéro, le jeu vidéo est un média intimement prospectif et gère très difficilement les souvenirs, les mémoires, les flashbacks et le retour sur soi, surtout lorsqu'il est systématisé comme dans le paradigme de la marguerite. Il ne semble l'accepter que dans le cadre de cette prise d'élan, mais un retour continuel au centre de la fleur dilue fortement l'expérience de jeu et empêche le joueur de comprendre réellement qu'il progresse au sein de sa quête. Malgré l'obtention de nouveaux objets, malgré son gain d'expérience, rien n'y fait. Et le compromis semble davantage atteint lorsque cet espace se fait évolutif, ou alterne très rapidement les différentes marguerites, à l'image de Banjo-Kazooie ou de Banjo-Tooie. Super Mario 64, malgré sa découpe en 3 hubs s'ouvrant au fur et à mesure de l'obtention des clés délivrées par Bowser, a lui-même peine à faire fonctionner le système, la faute, sans doute, au fait qu'aucun mouvement supplémentaire ne soit exigé pour explorer le château de Peach et atteindre le boss final, notamment les casquettes de couleur rouge, verte ou bleue. Il paraît alors intéressant de remarquer que Diablo 3 choisit cette structure florale, non seulement après 2 épisodes plus classiques dans leur construction spatiale, mais également, malgré ses défauts, mis ici en lumière.
Cinquième partie, Diablo 3 ou le miroir qui revient.
Il me semble que, globalement, le choix de cette structure permet de faire de cet opus, à tous les égards, un épisode somme et conclusif. Contrairement à Diablo 2, où l'histoire vous devançait et où aucune de vos actions, finalement, n'influençait le déroulement de l'intrigue, dans Diablo 3, vous fabriquez les événements. Courir dans tous les sens ne parvient qu'à faire tuer Kane, vous libérez Adria, vous condamnez les cieux à la déchéance. Vos actions sont plus destructrices que créatrices ou réparatrices, pourrait-on presque dire. Mais ce pouvoir a un prix, celui de l'incertitude. Dans Diablo et Diablo 2, votre destination était toujours très claire. Ici, elle se construit au fur et à mesure des quêtes et de l'avancée de l'histoire. L'incertitude des motivations de chacun, le flou dans lequel les personnages s'égarent, habite également vos gestes, et vous ne pouvez pas, comme auparavant, foncer bille en tête d'un point A à un point B. Vous êtes contraint, même au cours de vos parties suivantes, de consciencieusement suivre le chemin déterminé par l'histoire et de repasser à une, deux ou trois reprises à votre point de départ pour prendre un autre chemin. Si on explorait Diablo selon l'axe des ordonnées et Diablo 2 selon l'axe des abscisses, Diablo 3 serait bel et bien cette marguerite, chaque ligne faisant finalement une courbe revenant toujours vers le centre que serait la ville, fût-elle la nouvelle Tristram, le campement caché ou le bastion de la redoute. Si le cul-de-sac était la finalité du premier épisode et vous faisait affronter Diablo, et s'il était une exception dans Diablo 2, il est ici signifiant et constitutif du jeu. Trouvons l'étoile tombée du ciel. On explore la cathédrale, on utilise un relais, nous retournons en ville et à présent, nous devons explorer la zone nord. Mais c'est un autre cul-de-sac. Une fois de retour en ville, nous devons à présent prendre un bateau pour Wortham et trouver le manoir de Léoric. Les actes 2 et 3 sont du même acabit. On explore à droite, cul-de-sac, relais ou portail. On explore à gauche, relais ou portail, et ainsi de suite, et ce, jusqu'à la fin de l'acte. Seuls les cieux cassent un peu cette monotonie, même si nous ne sommes pas à l'abri d'un retour en arrière, notamment après avoir battu Rakanoth. On observera alors que les développeurs n'ont su faire l'économie d'une dernière verticalité, intervenant après la descente aux profondeurs de la fin de l'acte 3, ce qui présagerait peut-être une autre descente infernale dans une extension qui sera peut-être un jour annoncée. Les relais eux-mêmes sont cependant une illustration agréable de cette nouvelle approche de l'espace. Auparavant, on les trouvait sur le chemin nous menant à la fin de l'acte, et ils composaient autant d'étapes qui nous donnaient une chance de revenir en ville de façon exceptionnelle et de repartir comme si de rien n'était. Là, ils se situent à la fin de ces cul-de-sac et nous ramènent à notre point de départ. Ce sont des objectifs et non des jalons, et l'utilisation que l'on en fait, encore une fois, est toute particulière. Nous ne pouvons nous empêcher alors de les mettre en relation avec ces pierres qui permettent de remonter à l'entrée des différents donjons, comme si le joueur devait foncièrement s'attendre, à n'importe quel point de son aventure, à devoir revenir sur ses pas. Malgré ces retours constants, Diablo 3 parvient cependant à reprendre à son compte la verticalité et l'horizontalité signifiantes de ses deux premiers épisodes en les intégrant, de façon plus ou moins subreptice, au sein du jeu. La descente du premier Diablo est ici représentée par l'intermédiaire de la cathédrale de Tristram, le seul donjon du jeu qui possède 4 niveaux numérotés comme tels, là où tous les autres n'en ont que 3 au grand maximum. Même si, ainsi, le cratère d'Areat nous demande de traverser une dizaine d'étages, les 3 zones du cratère en lui-même, ainsi que les 2 tours où l'on détruit ces cœurs gigantesques, il n'y a pas de cratère d'Areat niveau 4. Seule la cathédrale a ce privilège, ce qui rend son exploration plutôt éprouvante lors de notre première partie. Cette exception remarquable et unique dans l'ensemble du jeu ne peut manquer de faire rappeler l'épisode fondateur de la saga. C'est en effet la seule et unique fois où le joueur revient dans ces lieux chargés de mémoire. À côté de cela, la structure horizontale du deuxième épisode est retranscrite ici par la reprise, presque identique, des environnements déjà traversés dans Diablo 2, et ce presque dans leurs moindres détails. Outre les overworlds, qui reprennent des éléments et des quêtes déjà rencontrées, les 2 premiers actes de Diablo 3 reprennent les 2 premiers de Diablo 2. Le bastion de la redoute nous renvoie à Lord of Destruction et le cratère d'Areat aux enfers de l'acte 4 de Diablo 2. Mais l'on peut également construire des correspondances entre les geôles de Léoric et la prison ou les caves du palais de Diablo 2, les archives de Zoldun Kul et le sanctuaire des arcanes, le cimetière des oubliés et celui des rogues. je pense qu'il est possible de continuer encore. Là où je veux en venir, c'est que Diablo 3 nous propose de revivre, par l'intermédiaire de ces micro-séquences horizontales, c'est-à-dire avant le fatidique retour au point de départ, un acte ou une section d'actes des jeux précédents. Ce qui a ainsi été considéré, de la part des joueurs ou des critiques, comme de la reprise évidente et de la pompe grossière de la part de Blizzard, peut être interprété du point de vue spatial. La construction globale du jeu, cette figure de la Marguerite, l'exception notale de la cathédrale, la reprise d'anciens environnements, tout ceci est bel et bien à interpréter du point de vue du signe espace de jeu et à mettre en relation avec l'intrigue de cet épisode destiné à conclure la grande saga Diablo et à éliminer, une fois pour toutes, non seulement les derniers démons majeurs de la mythologie, mais surtout Diablo lui-même, éparpillé aux quatre vents après une lutte homérique. Il nous fallait donc bien cela pour clore cette saga magistrale, un retour sur les événements marquants des jeux précédents, suivi d'une conclusion sans équivoque.
Deuxième partie, espace narratif et espace contemplatif.
Concernant les jeux Diablo, il est possible d'associer de façon assez régulière construction de l'espace et histoire en elle-même. Et nous avons supposé que, globalement, l'espace était dans nos jeux vidéo immensément narratif d'un point de vue sémiotique et prenait en considération un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Si cette théorie globale peut s'appliquer, à ce qu'il me semble, à l'immense majorité des jeux que nous traversons, elle se doit d'être complétée par ce que j'appellerais l'espace contemplatif. Technologie aidant sans doute, mais également à cause d'une meilleure maîtrise du média et une inspiration certaine, des codes moins du cinéma que de la peinture, l'on peut observer de plus en plus dans les jeux traversés des espaces qui semblent comme en dehors de toute espèce de narration, dans la mesure où l'on n'y trouve aucun objectif d'aucune sorte, où ils sont situés en dehors du chemin principal et non dévolus à un objectif, et ce, bien que les règles s'y appliquent avec régularité. Ce sont des domaines appartenant au jeu mais qui semblent effectivement inutiles. Je pense notamment à Shadow of the Colossus. Ces espaces, que je qualifierais de contemplatif, se trouve de plus en plus régulièrement dans nos jeux vidéo et n'ont comme autre utilité, croit-on, d'être beau, de présenter un joyeux paysage ou une belle scène et rien de plus. Il y va pourtant, je le présume, du jeu vidéo comme de la nature ou de l'art en règle générale. Nequaquam vacuum, c'est-à-dire il a horreur du vide. Et cette contemplation, aussi inutile puisse-t-elle sembler, de remplir malgré tout un rôle, même s'il est opposé à celui de la narration. Le jeu vidéo, comme je l'ai indiqué auparavant, est un média temporel et, par essence, il est donc immensément narratif. Ces espaces contemplatifs, bien qu'existants, ne peuvent être atteints que par l'intermédiaire d'un trajet quelconque, d'un voyage, d'une aventure et font donc partie, moins précisément que le reste cependant, de l'espace narratif. Leur nature, cependant, à part, à côté d'eux, les rend alors d'autant plus forts, d'autant plus reposants, que l'on s'imagine se rendant, matin, à notre bureau par le même chemin, passant par les mêmes rues, les mêmes places et, brusquement, alors que le soleil brille gentiment et que les nuages floconnent, vous choisissez de vous installer dans un square, de vous asseoir sur un banc et d'observer lentement le monde poursuivre sa course. Tant que vous ne serez pas au travail, votre objectif ne sera pas rempli, à moins que ce soit précisément le vôtre de ne pas y aller ce jour-ci. Et l'espace où vous vous tenez n'est que contemplation, et non pas narration. Il agit cependant à la façon d'une distraction, et permet alors de remplir ce monde en le croyant vivant ou réel. C'est encore cela qui pourrait mettre en échec ce que l'on appelle le paradoxe de l'observateur, le fait que le monde, ou des parties de monde, existent indépendamment de notre existence, chose qui en réalité est très difficile à accepter. À présent que les développeurs ont su comprendre, sans doute de façon empirique, et systématiser leur utilisation de l'espace à des fins narratives, il commence à prendre en compte, de plus en plus, l'espace contemplatif, celui qui n'a été construit sans but, sans objectif, pour le seul plaisir d'exister, sans qu'il ne faille y trouver un easter egg, un secret, une arme quelconque. Avant même que l'on ne parle de réalisme, d'émotion, d'ambition grandiloquente, c'est là peut-être le futur combat du jeu vidéo s'il désire se revendiquer en tant que média à part entière. Avoir le culot et le plaisir de dessiner une chute d'eau qui ne dissimule nulle caverne ou passage secret, de laisser tomber ses instruments sans qu'un message n'apparaisse, de filmer les cieux sans qu'un personnage ne les regarde en retour. Quand le jeu vidéo, à présent qu'il sait qu'il peut raconter une histoire, saura qu'il peut s'empêcher de le faire, quand il atteindra le plaisir de l'inutile, alors réellement passera-t-il dans le troisième âge? Et sans aucun doute, faudra-t-il alors à nouveau se demander s'il n'est pas un exercice artistique de son plein droit?